Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Tout ce qu'on crée, c'est une réponse à la violence.
Il faut pouvoir occuper l'espace.
L'évolution qu'on est en train de vivre.
L'archive, c'est notre mémoire.
Ça caillasse dans les souterrains fauchés de la poitrine. J'entends des collines de fin de monde. Habibi, j'entends les larmes du soleil.
Pour ce nouvel épisode de l'affranchi podcast, nous recevons Sarah Mishkin à l'occasion de la publication de son ouvrage « La plaie de l'aube » aux éditions Blast. C'est parti. Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
Quel livre ? On est face à une écriture qui laisse pas indifférente, ça c'est certain. Ça a été, et autant te le dire immédiatement, j'ai eu besoin de beaucoup de lectures. Et j'espère ne pas être la seule à te dire ça, parce que je pense que c'est des endroits de poésie qui, généralement, doivent amener un nombre de conversations aussi différentes, en fait, que les personnes qui te l'adressent. Et c'est ton troisième livre. Donc, tu as fait un roman, alors qui est une lettre, qui est une forme poétique, qui est, voilà, encore une fois, une question... Encore une fois, et déjà, en fait, des questions de forme un peu floutées, avec de minuit à minuit au bruit du monde. Et un livre qui s'appelle L'été, mais qui, lui, n'est plus disponible pour le moment. Donc, on ne va pas trop en parler parce qu'après, ça va briser les cœurs. Mais en tout cas, félicitations pour cette troisième publication.
Merci beaucoup.
Avec La plaie de l'aube, tu nous embarques, en fait, dans une narration en 9 temps. Il y a 9 créneaux, de ce fait, de 24 heures. Donc, on commence à 23h13 et on reviendra jusqu'à 23h13 pour nous raconter énormément de choses et en même temps, avec assez peu de mots. T'as une écriture qui se voudrait limite lapidaire, si tu me permets ce mot. Il y a quelque chose vraiment de très tranchant. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait comment est arrivée la plaie de l'aube dans en fait ces différentes publications ? Est-ce que j'ai eu l'impression qu'il y a un lien en fait ?
Complètement. Ben, en fait, moi, j'ai l'impression d'écrire un grand livre. Et à chaque fois qu'il va prendre, c'est comme si c'était des instantanés, toutes les publications que je fais, et je pense, enfin, assez généralement. Et j'ai une pratique d'écriture qui est très régulière, en fait, qui est quotidienne. Donc, j'écris tous les jours, et parfois, ça donne des choses, parfois, non. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas vocation à être publiées et qui ne le seront jamais, qui sont un peu des instants entre. Plein de débuts de romans, de milieux de romans. J'ai beaucoup de poésie pour ce livre-là, par exemple. Ouais, j'avais écrit... je crois 200 pages, et il y a moins de la moitié qui a été en fait ce recueil-là. Et j'ai l'impression, oui, qu'en fait je suis quelque chose de manière très large, quoi, avec un certain nombre de thématiques qui reviennent, et où l'été c'était un peu le début de tout ça, mais ensuite, oui, qui sont tirées au fur et à mesure. Et par exemple, oui, tout ce qui est de questions de filiation, de généalogie, ça revient beaucoup. De rapport avec les ancêtres. Du coup, il y a forcément les questions d'identité aussi, de manière large. Donc, comme personne racisée, comme personne queer. C'est à chaque fois, c'est des choses, en fait, qui viennent... que je viens, en fait, moi, reparcourir pour à chaque fois... Je pense même pas que ce soit pour trouver des réponses. Je pense que c'est vraiment pour poser les questions, quoi. Et le premier recueil de poésie, ouais, c'était ça. Le roman, après, c'était une autre manière de le faire et qui a été très intéressante pour moi, en fait, parce que je me suis rendu compte qu'écrire un roman, c'est très différent d'écrire de la poésie. En fait, quand j'écris de la poésie, j'ai pas du tout le ou la lectrice en tête, alors que quand j'écrivais un roman, j'étais obligée de l'avoir parce qu'il fallait qu'il y ait au moins une possibilité de compréhension et qu'on puisse suivre l'histoire. Ce qu'on n'a pas besoin en poésie, en fait. Enfin, pour moi, le champ est complètement déplacé. C'est juste qu'est-ce qu'on ressent, vraiment, de trouver sa langue, de quelle manière on peut réhabiter le réel pour qu'il soit le plus proche de ce que nous, on porte et de ce qui nous traverse. Et donc, oui, j'avais ce truc-là du roman de vraiment devoir me déplacer et sentir dans ma solitude qu'il y avait quand même une personne qui m'accompagnait et qui devait faire parcourir le chemin avec moi. Et d'où la forme de la lettre, je pense aussi, qui me permettait en fait de vraiment avoir le je et le tu, et d'avoir vraiment ce rapport très intime qui moi me tient énormément à cœur aussi. Je trouve que c'est ça en fait, le début de l'écriture généralement, c'est juste le point, mais je dirais presque la corde, mais vraiment d'où la corde vocale, vraiment le côté de l'oralité qui est très présent chez moi aussi, mais où on est sincère. Et je trouve, enfin, je suis toujours frappée, même quand je donne des ateliers d'écriture ou quoi, mais une personne qui est sincère, c'est tout de suite quelque chose qui relève de la littérature, quoi. Et parce que, et c'est là aussi où la littérature, c'est extraordinaire, je trouve, c'est le côté de... Enfin, pourquoi on a besoin de livres alors que ça, on parle tout le temps. Enfin, le langage, c'est partout. C'est étonnant quand même qu'on ait besoin en plus de ces objets-là et qu'on y tienne autant. Et je pense que c'est parce qu'il y a des choses, justement, de l'ordre de la sincérité et de l'honnêteté qu'on n'arrive pas à toucher quand on est à l'oral. Et que quand on est dans notre solitude, en fait, complètement, mais c'est une solitude qui est peuplée, en fait, parce que les autres sont là, d'autant si on destine ce texte à d'autres personnes, même pas forcément de publication, vraiment, hein. Ça peut être des zines, ça peut être aussi juste ça, on le donne à des amis, à des personnes qu'on souhaite. La personne est présente avec nous, mais dans notre solitude immense, quoi. Et ouais, et du coup, le recueil de poésie, je pense, c'était toujours la continuité, en fait, de tous ces mouvements-là. Mais avec le côté de, je pense que le roman a changé la donne pour moi. Enfin, du coup, même quand j'écrivais le recueil de poésie, je pense que maintenant, je peux plus être dans cette solitude vraiment absolue dans laquelle j'étais dans l'été. La personne qui lit pour moi est maintenant vraiment présente. Et je trouve que dans tous les cas, c'est vraiment un travail de co-création aussi, l'écriture, dans ce sens-là de la lectrice crée, en fait, avec nous. Et il faut vraiment laisser de l'espace. Enfin, ça, je trouve que c'est vraiment... on le sent quand un écrivain ou une écrivaine prend trop de place, on n'aime pas, en fait, comme lectrice. On a envie de dire, non, laisse-moi ça, la place d'imaginer, de ressentir, etc. Donc, laisser vraiment la marge. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'écriture, écriture lapidaire, tu vois. Parce que moi, ma recherche, là, c'était vraiment de comment je peux avoir une écriture qui soit la plus nue possible. Et d'où le fait de, oui, essayer de trouver le moins de mots possible et vraiment laisser aussi ça, tout cet espace-là pour que la personne qui lit puisse être dans le entre. Et après, j'avais et j'ai toujours beaucoup la question du silence. Et qui est une question qui se pose énormément pour les existences minorisées, en fait. De ça, on est toujours confronté à cette question du silence, enfin quelle qu'elle soit, que ce soit de la manière de oui, on peut pas prendre la parole, que ce soit aussi même quand on prend la parole, que cette parole est silenciée après coup, ou est ravalée, ou est tordue, et donc la question du silence se déplace en fait. C'est pas aussi clair que soit on ne parle pas, soit on parle. C'est même quand on parle, il peut y avoir la question du silence qui est portée. Et après, il y a toute la question, par exemple, de quand on vient de culture du Sud, où on n'a pas les mêmes rapports non plus avec les silences, parce qu'il y a beaucoup des questions de pudeur ou de choses comme ça, et donc on va pas forcément tout dire non plus. Mais c'est pas dans une volonté de ça, de rapport de domination ou quoi que ce soit, c'est juste parce que oui, il y a certaines choses qui passent, et qui passent autrement aussi, et c'est là où le langage, enfin ça passe par plein de choses, il y a aussi les gestes, il y a la nourriture, il y a, enfin du coup là je pense beaucoup plus au rapport à l'amour, à la tendresse, mais de toutes ces choses-là, et qui vont pas forcément passer par le langage, et donc ouais, le silence, de manière large, c'est quelque chose qui m'occupe beaucoup, et qui occupe ma langue. Et du coup, comme poétesse, c'est assez paradoxal, quoi. Et donc, je voulais que ça puisse aussi se retranscrire dans l'espace de la feuille, qu'il puisse y avoir cette épaisseur-là du silence, pas forcément comme un poids ou comme quelque chose d'écrasant ou comme une rupture ou comme un moyen de silencier, mais aussi comme tout ce que portent nos silences, en fait. Et ouais, et ensuite pour tout ce que tu disais de plusieurs niveaux de lecture, etc., et d'avoir besoin de lire beaucoup, moi je sais que ça c'est quelque chose de... Enfin, tous les livres qui m'ont fascinée, j'ai eu besoin et j'ai encore besoin de les lire beaucoup. Et c'est vrai que j'ai toujours un truc de plusieurs niveaux de... et que ce soit, oui, le niveau de l'image, du ressenti, le symbolique... et après là j'en parle vraiment comme si je réfléchissais à tout ça, mais en vrai je réfléchis pas du tout à tout ça quand j'écris, enfin c'est vraiment un mouvement inconscient, enfin moi je compare beaucoup ça à de l'artisanat ou la poterie, ou enfin on n'est pas en train de se dire consciemment voilà ce que je suis en train de faire, ça va ressembler à ça à la fin, enfin c'est vraiment juste de l'instinct, quoi, et on sent la chose et puis on sent quand c'est fini aussi, mais on peut pas trop l'expliquer. Et du coup il y a vraiment un côté de ça de sortir de son propre chemin, quoi. En fait, se mettre à l'écart et juste sentir tout le fleuve de ce qu'on est en train de porter qui passe. Et dans ce sens-là, en fait, il y a beaucoup de choses, moi, que je vais aller convoquer, que ce soit des lectures, que ce soit des conversations. Parfois, je n'ai même pas conscience de ça, mais je me rends compte après coup, qui viennent, en fait, traverser tout ce que je suis en train d'écrire. Et de plus en plus, j'ai l'impression que l'écriture, c'est une grande discussion, en fait. Enfin, dans le côté où ça, pour partir aussi de ce mythe-là, du génie solitaire, etc., qui est vraiment une grande blague, parce que ça ne se passe vraiment pas du tout comme ça. En ce sens-là, ouais, je me dis, c'est une discussion, en fait. C'est une discussion avec des personnes vivantes, des personnes que je côtoie, qui sont mes amis, qui écrivent aussi, des personnes qui ne sont pas dans le même champ artistique. C'est aussi conversation avec les mortes, c'est conversation avec généralement le vivant et l'inerte et toutes ces choses-là, en fait. Et donc, c'est paradoxal aussi parce qu'il faut arriver à un endroit de silence pour écouter tout ça. Donc, on en revient à cette question-là, quoi. Et je trouve qu'à chaque fois, ce que j'essaye de transcrire, c'est juste ça, en fait. Mais du coup, c'est immense, c'est beaucoup. Mais ouais, c'est juste de réussir à encapsuler ça pour un moment. Et quand j'arrive à le faire et que ça a une forme pour moi qui tient, là, ça devient un livre. Mmh. Et donc, La plaie de l'aube, c'est ça, quoi.
C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que donc, tu parles beaucoup du silence. Et certes, on le voit. Donc, c'est-à-dire que visuellement, en fait, vous avez fait avec les éditions Blast un travail de mise en page extrêmement précis, avec des systèmes typographiques vraiment très clairs. Donc, le principe des chapitres, des notes de bas de page. Alors, il y en a peu, mais qui sont très efficaces, dans le sens où tout de suite, en fait, de ce fait, elles sont remarquées. Mmh. Parce que parfois, malheureusement, les notes de bas de page ne sont pas lues, même plus souvent qu'elles ne le sont, hein, d'ailleurs. Mais là, pour le coup, elles apportent un sens très spécifique, en fait, à la lecture. Donc, si elles manquent, c'est de l'invisibilisation, d'une certaine manière, d'une partie du texte. Et ensuite, donc, sur la page, il y a vraiment ce principe d'un dessin, de quelque chose de... parfois en symétrie, parfois en géométrie, parfois en découpage, etc. Donc, c'est vrai que... En fait, on est tous différents lecteuristes en fait, de poésie. Moi, je sais que j'ai un principe de boulotage, d'abord. Mmh. Je vais tout lire très, très vite. Parce que j'ai pas le temps d'attendre. Ma première lecture, elle est toujours très, très, très rapide. Et ensuite, je vais vraiment préparer la rencontre. Et là, en fait, je vais disséquer, mais du mot à mot, de l'espace à l'espace. Je note tout. Enfin, il y a quelque chose de très méticuleux, en fait, dans mes lectures de la poésie pour être sûre de ne rien louper. Mmh. Et c'est vrai que face à ton livre, je me suis retrouvée, en fait, à avoir tellement de matière. Je me suis dit, wow. Alors, pourquoi je pense à tout ça? Il y a tellement de références qui me viennent. Et ça a été très chouette parce qu'à chaque fois, dans ces rencontres qui peuvent être pas toujours à mon endroit spécifique, c'est-à-dire je ne suis pas une personne racisée, je n'ai pas les mêmes références instinctives, on va dire, de mon vécu avec ta poésie, c'est normal, enfin, ou en tout cas c'est compréhensible. Et donc j'ai besoin de parler à haute voix, donc je débriefe avec ma collègue Lucie, j'essaye d'aller chercher en fait des éléments qui peuvent me raccrocher à mes imaginaires, à la façon dont moi ça peut traverser mon corps aussi, et c'est des expériences absolument incroyables, moi j'aime toujours. Et je me suis dit vraiment ça en fait, à force d'en parler, je me suis dit, il y a plein de gens en fait dans ce livre, j'ai eu l'impression qu'on était déjà en collective, que toutes les voix, les adresses, tu as plusieurs adresses différentes, tu as le je, tu as le tu as le yel, tu invoques un tas de personnages qui vont être d'une certaine réalité, qui vont être de la mythologie. Donc ce qui fait qu'au fur et à mesure de ces références que l'on va comprendre ou pas, que l'on va connaître ou pas, en fait c'est comme si on avait une sorte de petite... population qui nous accompagnait dans nos lectures.
C'est vrai.
Donc, c'est marrant comment toi, tu parles de silence, où en fait, je l'ai lu, je l'ai vu, mais où, à mes lectures, j'ai eu l'impression d'être de plus en plus nombreuse.
Ouais, mais parce que moi, je pense que c'est comme ça. Enfin, j'ai eu tout mon rapport au silence a évolué aussi, et mon rapport à la solitude, quoi. Et de base, mais je pense que c'est vraiment... Enfin, il y a quelque chose de très particulier... Enfin, dans l'Occident, avec la solitude aussi, quoi. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment frappant dans la littérature de Houellebecq. Bon, avec Enfin, c'est justement cette personne-là qui est ultra raciste, ultra sexiste, etc. Enfin, en fait, il dit vraiment quelque chose de l'Occident, quoi. Et qui est assez terrible, mais qui est ce truc-là de... Ouais, le rapport à la solitude. Et avoir cette impression-là qu'on est seul au monde. Et dans ce truc-là de... qui se retrouve aussi énormément avec ça, le fracture nature-culture, quoi. Le fait que tout soit mort, sauf les êtres humains, plus ou moins. Et même dans ce rapport-là avec les êtres humains, quand on est un homme cis blanc, du coup, hétéro, en fait, déjà, oui, c'est ça, femme et minorité de genre, du coup, on n'a pas de vraie relation avec elle non plus. Et ensuite, donc, qu'est-ce qui nous reste? Et en fait, donc, vraiment, c'est un rapport de solitude qui est absolu, absolu, en fait. Mmh. Et je trouve que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup aussi. Enfin, je voyais, il n'y a pas longtemps, les chiffres de la santé mentale, enfin, c'est en train d'augmenter énormément aussi. Et tout ce truc-là de... Enfin, je pense vraiment qu'il y a une stratégie du pouvoir dans le sens de ça, de nous faire croire, en fait, qu'on est dans cette solitude-là, dans des mondes qui sont morts, avec que des choses qui sont mortes autour, quoi. Et oui, c'est ça. Et que de l'inerte, et même, enfin, ce côté-là de l'inerte, enfin, dans énormément de cosmovisions qui ne sont pas occidentales, enfin, c'est pas du tout le même rapport non plus. En fait, le vivant est partout. Et se transforme aussi. Et même dans les objets, il y a quelque chose à chaque fois qui se transforme de l'ordre de la vie. Du souffle, en tout cas, quoi. Et ouais, et l'Occident est très particulier pour ça, quoi. Mais du coup, moi, en ayant grandi ici, j'avais aussi beaucoup plus ce rapport-là de « oui, la solitude, c'est quelque chose qui te coupe » et où, du coup, tu as l'impression d'être seul au monde. Mais donc, c'est à la fois très, très arrogant, parce que être seul au monde, enfin, c'est quand même une sacrée posture, quoi. Et en même temps, c'est d'une tristesse à en mourir, quoi. Et... bah, en grandissant, etc., en me nourrissant de beaucoup d'autres choses aussi, je me suis... Enfin, ouais, en fait, j'ai eu un repeuplement, et c'est là où ça me fait vraiment penser à ce que tu dis, j'ai eu un repeuplement de ma solitude, quoi. Et maintenant, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et particulièrement quand j'écris, c'est vraiment de l'ordre de la solitude peuplée, quoi. Mais c'est aussi juste par rapport à moi, la façon dont je me définis maintenant. Et c'est ce truc-là de moi, qu'est-ce que je porte, en fait. C'est-à-dire moi... Enfin, oui, c'est ça. Moi, comme... Il y a plusieurs choses. Il y a moi, du coup, vraiment comme être humaine, avec ce côté-là de, voilà, donc par rapport à ma famille, donc moi, je suis orpheline, donc il y a ce truc-là aussi de, voilà, je porte mon père, je porte ma mère, mais ça veut dire que je porte des mortes et des morts aussi, quoi. Ensuite, il y a le côté de, si on va plus loin dans l'identité, de, d'accord, donc comme personne queer, comme personne franco-tunisienne noire, quelles sont toutes les personnes que je porte avec moi qui rentrent dans ces cercles-là? Et ensuite, il y a vraiment le côté aussi, je trouve, à partir du moment où je me pose comme poétesse et comme écrivaine, enfin moi, je me suis toujours vraiment beaucoup posé la question de la responsabilité de manière intime, mais je trouve que vraiment comme écrivaine, comme poétesse, la question se pose aussi, parce que c'est un geste énorme en fait pour moi, que de prendre la parole de façon publique, et du coup de prendre la parole aussi dans un livre, et ça, de pouvoir toucher énormément de personnes qui sont inconnues, de pouvoir traverser l'espace et traverser le temps, ça implique pour moi une responsabilité qui est immense, d'autant vu les existences que je porte, quoi. Qui sont des existences marginalisées, qui n'ont pas le droit à la parole dans un premier temps, qui n'ont pas le droit à cet espace-là de traces, d'écriture, où nos existences sont écrites, où il y a quelque chose qui est porté, qui est plus grand que ce qu'on peut nous offrir normalement comme espace, puisqu'il n'y a juste pas d'espace qu'on nous offre, quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, oui, ok, en fait, si tu fais ça, d'accord, mais tu es responsable, du coup. Enfin, il y a quelque chose de... Non, mais oui, c'est ça, tu ne peux pas le faire de manière légère. Il faut que tu prennes toute la pesanteur qui va avec aussi. Mais pesanteur, pas du tout dans un sens négatif, vraiment quelque chose qui pèse, quoi. Et ouais, à partir de ce moment-là, enfin, je pense qu'il y a aussi ce peuplement-là, en fait, qui est toujours présent, et enfin, je... ce qu'elle dit, Maya Angelou, ça m'a toujours marqué, mais de moi, quand je me lève, il y a 10 000 qui se lèvent avec moi. Pour moi, c'est ça que je ressens quand j'écris. C'est ça quand je ressens quand je parle aussi, quoi. Et donc, de pouvoir de vraiment toujours se tenir à ça. Ouais, et peu importe les formes dont prend mon écriture, peu importe les formes dont prend ma parole aussi, de toujours revendiquer ça. Et après, je trouve que j'ai la grande chance aussi, enfin là, je parle de Maya Angelou, mais d'avoir ces généalogies qui sont des généalogies imaginaires, mais de personnes qui sont passées avant moi, qui avaient des existences qui étaient similaires à la mienne aussi, où je peux me dire, ok, tous ces chemins-là, tous ces sillons-là, moi, je continue à les parcourir, mais on les a tracés avant moi aussi. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la stratégie politique aussi, quand on est dans des existences marginalisées comme ça, où à chaque fois, on a l'impression que, voilà, on arrive sur un terrain vague, où il faut inventer la roue de nouveau, alors que non, en fait, c'est juste qu'on n'a pas eu ce truc-là de transmission, et donc de vraiment aller la chercher, en fait, cette transmission-là. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment en tête, de me dire, ok, j'aimerais bien que les prochaines générations, là, de poétesses queer racisées, d'écrivaines queer racisées, puissent se dire, et du coup, ça pourrait passer par, en lisant mes livres, d'accord, en fait, il y a telle généalogie que je peux aller chercher. Et donc, de faire ce travail-là aussi, quoi, qui est vraiment un travail de tissage, je trouve.
On entend le principe de fiation, de filiation, d'héritage. Il n'y a pas de doute, mais il y a aussi, en fait, des personnages qui m'ont plus surprise, des déesses. Tu parles des yels comme des pirates, tu parles de légendes, tu parles de toute... un folklore, une mythologie, en fait, qui est un savoir commun, ou alors, bon, je ne connaissais pas toutes les personnes que tu as invoquées, donc j'ai adoré aller découvrir, en fait, qui elles étaient. Tu invoques Aïcha Kandisha, qui est incroyable, puisque, donc, elle séduit les hommes pour pouvoir les manger, en fait.
C'est ça, mais c'est encore plus intéressant que ça, parce qu'en fait, c'est, ouais, c'est une figure mythologique, mais d'Afrique du Nord, on sait pas trop d'où elle vient, enfin, c'est vraiment le côté légendaire. Mais en fait, de base, c'est pas seulement elle séduit les hommes et elle les mange, c'est elle séduit les colons et elle les mange. Et en fait, y a, enfin, ouais, l'histoire est vraiment fascinante, parce que c'est ça, en fait, de base, c'est qu'elle séduit les colons, et après, enfin, de base, c'est pas elle les mange, de base, c'est elle séduit les colons, et elle fait en sorte ensuite de les mettre à disposition pour que d'autres personnes puissent les tuer. Les colons s'en rendent compte et ils vont tuer toute sa famille sauf elle. Et elle devient folle après coup. Et dans cette folie-là, elle commence en fait à séduire les hommes, mais du coup indifféremment de... Elle n'a plus de stratégie politique du coup, quoi. Et juste, elle séduit les hommes, peu importe qui passe. Et là, elle les mange. Et ça devient cette figure ouais, qui est un peu mi-animal, mi-femme... Voilà.
Et c'est marrant comment, en fait, de ce fait, parce que moi, quand je fais ce genre de recherche, je tape le nom de la personne et qui, définition, enfin voilà, j'ai pas une recherche très plus poussée que ça. Et donc, on ne retienne que ça d'elle. Tu vois, que moi, ma première ligne, ce soit elle les séduit, elle les mange. Ouais. Ça fait vraiment la personne misandre, enfin par excellence.
Après, on
quoi.
A pas de problème avec ça. Mais...
mais alors, quand tu dis non, en fait, elle séduit les colons. Là, tout de suite, en fait, on est déplacé dans la narration. Là, on n'est pas sur le même endroit de vengeance, en fait.
Non, du tout.
Et c'est à chaque fois, en fait, il va y avoir comme ça des personnages qui, en fait, à première vue, vont avoir une certaine définition, mais en fait, vont nous induire d'autres choses qui vont être accrochées à ce que tu nous as déjà dit précédemment, ce fameux endroit politique, en fait, de ton écriture, qui est vraiment de dénoncer, en fait, la société... dans laquelle nous vivons, nous évoluons, et là où tu écris ce texte. Donc c'est cette société patriarcale, hétéro-patriarcale, capitaliste, coloniale. Enfin voilà, on est sur les trois gros piliers voilà, qu'on essaye de défoncer à coups de tout ce qu'on peut. Mais en tout cas, c'est nos gros piliers de société. Et pour ce faire, en fait, j'ai trouvé que tu avais réussi à être extrêmement subtil. C'est-à-dire qu'on est souvent dans une deuxième compréhension. Tu vois, tu n'es pas en direct, on rentre dedans et on vous offre cette information à vous, lectrices. C'est prenez 3 secondes pour réfléchir à cette phrase. Et en fait, là, vous verrez la force révolutionnaire de ce que ça peut porter, quoi. Ce double temps-là, c'était quelque chose de volontaire, on va filouter. Les lectrices.
C'était pas quelque chose de volontaire. Après, ça, c'est toujours. Enfin, je trouve que. Mais d'autant plus maintenant, en fait. Là, il y a quelque chose de. En ce moment où tout se resserre autour de ça. Enfin, il y a plein de livres sur littérature et politique qui sortent. Enfin, que ce soit Kautarashi, Joseph Andras, Contre la littérature politique, là. Enfin, bon. Donc, toutes ces questions-là sont en train de se poser. Avec le printemps des poètes aussi, généralement, ça a reposé cette question-là. Et il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de mode d'emploi par rapport à ça, enfin, de ça, qu'est-ce qui serait de la littérature politique, qu'est-ce qui non, etc. Maintenant, oui, enfin, moi, je pense que, enfin, il n'y a pas de frontière, enfin, techniquement, entre littérature engagée ou littérature politique et littérature qui ne serait pas. C'est-à-dire que vraiment, toute littérature est une lecture du monde, et en ce sens-là, elle est située, et elle informe aussi, d'une certaine manière. Et bah, du coup, je reprends l'exemple de Houellebecq, par exemple, par rapport à ça. Lui, bon, déjà, à chaque fois, il sort des manifestes politiques. Enfin, bon, il n'est pas très, très subtil de quoi que ce soit, mais bon. Même s'il n'y avait pas ça, en fait, c'est intéressant parce que moi, je le lis, du coup, ça, en tant que femme racisée. Et la seule place que j'ai dans ses livres, c'est les 2-3 pages où il appelle une escorte qui est une beurette ou une... Voilà, je mets vraiment avec des gros guillemets parce que ces termes sont, voilà, des termes qui sont coloniaux et sexistes. Mais et qui vient, avec qui il a une relation sexuelle, et basta, quoi. Et donc, il y a une lecture du monde, enfin, dans tous ces livres-là, en fait, et qui va être informée, et qui va être politique, et qui va porter tout ce qu'elle porte, et qui va venir aussi interagir avec la lectrice, et venir renforcer, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, quand ça vient renforcer quelque chose de l'ordre de la norme dominante, on a l'impression que c'est neutre. Quand ça vient renforcer une autre lecture du monde qui est située autrement, avec un autre propos politique, c'est là où on dit que c'est de la littérature engagée ou de la littérature politique. Donc il y a ça. Maintenant, écrire de la littérature, c'est pas... Enfin, si je veux écrire des tracts, je vais écrire des tracts, quoi. Si je veux m'engager politiquement, je vais faire ça. Si je veux le faire de cette manière-là, ça veut dire que je veux toucher à un autre lieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de démarche politique, ça veut dire que vraiment que oui, je veux toucher à un autre lieu et dans d'autres formes, quoi. Et donc, je pense que c'est ça, en fait, qui vient interagir dans le fait de oui, c'est pas... Enfin, je ne viens pas, en fait, donner un manifeste politique ce que je pourrais faire, tu vois, en expliquant de quelle manière notre société est coloniale et capitaliste et hétéropatriarcale et toutes nos relations sont régies par ça et tout ce qui relève de notre domaine intime est régie par ça aussi. Et ensuite, quand on sort à l'extérieur, le travail, bref. Toutes ces choses-là, je pourrais le faire, mais quand j'arrive dans le domaine de la poésie, et c'est aussi... Enfin, moi, je m'interroge toujours beaucoup de ce côté-là, c'est qu'en fait, on a besoin, nous aussi, parce que du coup, j'écris pour nous, quoi, de manière très, très large, on a besoin de respirer, on a besoin d'amour aussi, quoi. Et en fait, dans ce côté-là où on est déjà matraqué à chaque fois qu'on sort dans cette société de partout, si je, même chose, je dis les choses de manière très très directe, très brutale, etc., il y a un côté où, enfin oui, on peut pas sortir en fait complètement de ça, quoi. Moi, j'aime bien le fait d'avoir, et ce côté-là d'espace refuge, où il y a vraiment ce côté-là du rêve qui est convoqué, de la tendresse, de l'amour, de l'imaginaire. Je pense qu'on a vraiment besoin de l'imaginaire aussi de façon politique, quoi. C'est aussi ce truc-là de oui, ok, si on veut que ce monde arrive à sa fin, faut qu'on arrive à imaginer d'autres mondes, en fait, quoi. Et qu'est-ce que ça pourrait être, en fait, vraiment, d'avoir nos vies qui sont là, qui ont une place, nos humanités qui sont respectées, quelles qu'elles soient, nos relations... oui, qui puissent vraiment nous nourrir, etc., il faut qu'on puisse l'imaginer, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut ouvrir une brèche ici aussi. Et ça veut dire ouvrir une brèche dans la langue aussi, quoi. Et donc, je pense que le côté subtil, enfin, vient de tous ces lieux-là où, oui, enfin, ça ne m'intéresse pas de vraiment, enfin, ça porter un propos politique qui soit ultra direct, ultra, voilà... maintenant, forcément, c'est quelque chose qui vient modeler toute ma langue. C'est aussi quelque chose qui l'informe complètement, quoi. Et je trouve aussi intéressant, ben ça, enfin, tu vois, t'as cité Aïcha Kandisha, mais par exemple, je reprends des déesses de la mythologie grecque aussi, quoi. Et la mythologie grecque, enfin, c'est vraiment le truc qui revient tout le temps, enfin, politiquement, mais bon, de manière très... bête, là, en l'occurrence, quoi, pour justifier ce truc-là de, oui, la culture française, avec ses origines grecques, et puis les Lumières, et puis ceci, cela. Et en fait, c'est intéressant, ça, parce que, pour le coup, déjà, je trouve que le côté de pouvoir le tordre et le détourner, c'est intéressant. Les déesses que je convoque, c'est les déesses de la vengeance. Et l'autre côté qui est que, enfin, moi, j'ai été à l'école du Louvre, du coup, et j'ai étudié, alors, les arts paléo-chrétiens, coptes et byzantins, donc vraiment, c'est le christianisme au tout début. Et c'est vraiment intéressant parce que dans ce truc, enfin, on voit en fait à quel point c'est une construction politique, ce truc-là de oui, la Grèce antique et la Rome antique, etc. Enfin, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est vraiment une fiction. Encore une fois, c'est de l'ordre du travail de la fiction, mais cette fiction-là politique et qui est vraiment crue en fait par ces personnes-là comme si c'était une vérité et qui vient du coup supprimer en fait d'autres mondes possibles et en l'occurrence vraiment aussi ethno-racialiser la France du coup. Mais en fait, pour revenir à ce truc-là, la mythologie grecque, et généralement, enfin, l'Empire romain à l'époque, la base, c'était pas Rome. Enfin, Rome, c'est arrivé assez tard, en fait. La base, c'était Byzance. Et Byzance, c'est l'actuelle Turquie. Et autour de ça, il y avait donc la Syrie, la Palestine, toute l'Afrique du Nord, du coup, la Tunisie, l'Égypte, etc. Enfin, on sait que Cléopâtre, c'était une Égyptienne, mais du coup, c'était pas du tout une exception là-dedans, en fait. Et tout ce bassin méditerranéen-là, qui n'est pas du tout un bassin blanc, avait cette culture grecque. Et portait cette culture grecque, en fait. Et du coup, moi, je me disais, ok, c'est intéressant, moi, comme franco-tunisienne aussi, que j'aille chercher cet héritage-là, en disant, voilà, c'est le mien, mais pas le mien dans le sens où vous l'entendez aussi, mais le mien dans le sens où je vais me le réapproprier et dire, voilà, moi, cette vengeance-là, c'est pas... Enfin, oui, je porte pas une vengeance blanche de je sais pas quoi. Du coup, c'est... Pour moi, ouais, c'est intéressant de détourner ce truc-là. Et je pense qu'on en a besoin aussi, là, pour tenir aussi, généralement, politiquement... Et où le système dominant est très fort aussi, c'est que elles ont leur mythologie. Nous, on est en train de la construire, mais on peine encore à avoir ça et à y croire aussi autant qu'elles peuvent y croire. Et pour moi, il y a un travail là de mon lieu d'écrivaine et de poétesse que de dire, ok, en fait, je vais travailler avec toutes celles qui m'accompagnent à construire nos mythologies, à construire nos cosmogonies. On a besoin de ça pour pouvoir se dire, ok, on tient aussi. Et ça, c'est beaucoup ma préoccupation, notamment en ce moment. Mais le côté de la lutte longue, quoi. Enfin, je trouve qu'on a toujours tendance à s'épuiser dans le truc de l'urgence, etc. Et de la vision vraiment aussi, ça, à court terme, de... On tient encore pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Et c'est lié à nos conditions financières aussi. Mais, enfin, j'écoutais une personne qui s'appelle Elia Sambar à propos de la Palestine. Et qui parlait de ça, et qui parlait de la question du souffle. Et elles ont vraiment cette question-là de la transmission est super prégnante chez eux, en fait. Et vraiment dans ce truc-là de, oui, on sait que la libération arrive, mais ce sera peut-être pas dans notre vie, ce sera peut-être pas dans la vie de nos enfants, ce sera peut-être pas dans celle de nos petits-enfants, mais on sait qu'elle arrive. Et il donnait un exemple qui m'a bouleversée, qui m'a frappée aussi, qui était que lui, il est né du coup dans la diaspora, mais il est revenu dans la maison de sa famille. Et en fait, cette maison-là, du coup, était occupée par une autre famille palestinienne. Et Israël, en fait, a mis en place une loi pour que les maisons palestiniennes juste se détruisent et enlever toutes les traces au fur et à mesure. Deux, il n'y a pas droit de rénover toutes les maisons qui sont palestiniennes. Donc en fait, tout finit par tomber au fur et à mesure. Et donc lui est revenu dans cette maison-là, et les escaliers, à force d'usure, etc., étaient tombés. Et la famille lui dit, bon ben voilà, on est vraiment désolé, mais du coup, ça, les escaliers se sont effondrés. Mais on a gardé les marches, et quand tu reviendras, tu pourras les remettre, tu vois, tu pourras reconstruire. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait, ça c'est la lutte longue. Et ouais, et j'ai trouvé ça trop beau que elle ait ça de manière aussi, c'est banal presque, enfin simple quoi. Et je me suis dit, oui, c'est vrai que moi je trouve que c'est quelque chose qui nous manque encore, ce truc-là de, ok, ça va venir et on fait tout, même dans le quotidien, même avec les objets, dans les petites choses, en sachant que, voilà, ça arrive. Mais ça veut dire que oui, ça demande de déplacer le temps en fait, enfin de l'agrandir, c'est vraiment la lutte longue, longue quoi. Et ça fait qu'on va pas aller recourir non plus complètement aux mêmes choses, en tout cas on va pas se contenter seulement à un champ d'action, on va aller beaucoup plus creuser d'autres choses dont on a besoin. Et pour moi ce travail de mythologie et de cosmogonie va dans ce truc-là aussi de la lutte longue, quoi.
Là, ce que j'entends, et c'est super parce que ça a vraiment été une de mes endroits de pensée avec ton texte, c'est les questions de matière, donc de temps et de matière, mais dans ce sens où en fait, comme on l'entend hein, dans tout ce que tu nous dis, cette impression en fait de n'être jamais dans du neuf, c'est-à-dire que nous-mêmes, le monde qui nous entoure, tout est une question de recommencement, de réutilisation. En fait, nous sommes des particules réutilisées à l'infini, à l'infini, à l'infini. Et donc, tout ça, on va l'entendre en fait dans ta poésie, dans tes poésies. Avec beaucoup en fait d'éléments de matière concrète, c'est-à-dire que tu as un vocabulaire de la matière du corps, mais aussi de la matière du monde, avec des choses comme le cuivre, le fer, tu vas nous mêler autant à des matières du monde qu'à des matières plus de l'espace, les étoiles, le soleil, le feu. Enfin, il y a vraiment comme ça une continuité des éléments, en fait, qui va à un moment donné se mélanger, en fait, à cette matière des corps organiques, des choses que nous sommes, mais qui, en fait, sont les mêmes choses. Une continuité, en fait, de l'appartenance au vivant. Et tout ça, en fait, je me suis dit, Mais en fait, si on prend au regard de toutes ces luttes, en fait, c'est de ne jamais oublier qu'en fait, on est faite de ce qui nous a précédé et qu'on sera ce qui arrivera. Et comme tu dis, et en fait, voilà, ce que tu viens de nous expliquer, c'est ça. C'est tout ce temps long. Et j'adore de ce fait que ça rebondisse avec l'exemple que tu nous as présenté, et merci beaucoup pour celui-ci. C'est de se dire, on est les marches de demain, quoi. Il y a quelque chose comme ça, c'est hyper... Alors, après, c'est... Il y a quelque chose, en effet, d'une responsabilité, et de se dire, notre corps est politique aussi dans ce sens-là, en fait.
Complètement, complètement. Ouais. Non, mais ça me touche beaucoup, ouais, que tu aies pu sentir cette chose... Non, mais oui, cette chose-là, mais oui, c'est clair. Pour le coup, moi, je pense que c'est... Enfin oui, il y a tout est en interaction forcément, quoi. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est très présent dans les cosmovisions et dans les savoirs indigènes et ancestraux. Mais c'est vrai que oui, enfin, ici, ça paraît toujours comme quelque chose de très... voilà. Alors que pourtant, même scientifiquement, c'est quelque chose où c'est le rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est su, même en Occident. Qui est en fait, oui, on est forcément fait d'étoiles, de... voilà. Et au niveau moléculaire, en fait, on peut pas distinguer mon corps de la table. Donc, c'est cette... Non, mais oui, enfin, c'est ce côté-là aussi de solitude peuplée ou de lien ou de... On est tous en interdépendance, mais de manière bien plus large que juste entre être humain et être humaine, quoi. C'est-à-dire que vraiment, tout est en interdépendance. Et le contexte de la crise climatique, enfin, c'est ça que ça révèle aussi, quoi. C'est qu'en fait, on est tous liés. Donc, ça veut dire que, oui, enfin, si la Terre vient à mourir, enfin, on va tous arriver à cette fin-là aussi, quoi. Et c'est ça, je trouve, qui est réveillé particulièrement dans notre époque. Et je trouve que là, le contexte social et politique global commence à montrer ça aussi. Il y a quelque chose de... qui bouge un peu et qui vient beaucoup des Suds, pour le coup. En fait, on est en train de se poser des questions de, oui, comment sont forgées les relations au monde. C'est quelque chose qui était déjà présent au XXe siècle. Donc oui, enfin, il y a quelque chose là qui commence à être très pressant de, oui, d'accord, en fait, il va falloir qu'on puisse voir de nouveau de quelle manière, en fait, ça, on a... De quelle manière est formé notre rapport au monde. Comment on peut interagir avec le monde encore, quoi. Et ça veut dire, du coup, entre nous, ça veut dire entre animaux, ça veut dire entre vivants. Et donc, oui, moi, c'est forcément... Enfin, comme ça fait partie de mes préoccupations aussi, c'est forcément quelque chose qui vient dans la poésie, quoi. Et je pense que c'est aussi ce truc-là, mais bon, c'est là où la séparation nature-culture, c'est vraiment de l'ordre assez fictionnel aussi, quoi. Mais j'ai l'impression que quand je travaille ce truc-là d'écriture, enfin, oui, c'est vraiment ce côté-là... très large de tout ce qui est, qui vient, en fait, qui est de la matière que je travaille. Et donc, oui, ça va beaucoup plus loin que juste que ce soit moi, que ce soit mon cercle proche, que ce soit l'humanité, du coup, que ce soit même ça, ma condition animale, enfin, ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. J'ai vraiment l'impression d'interagir avec, et c'est ce que Édouard Glissant appelle le tout-monde. C'est ce truc-là de oui, tout est en relation, en fait. Et de quand on entre dans la sphère de la poésie, on entre dans cette sphère du tout relationnel. Et qu'est-ce qui sort, en fait, de ça? Et après, c'est aussi ça, en fait, c'est qu'on retrace, du coup, des liens entre les choses, quoi. Et j'ai beaucoup l'impression, moi, que la poésie, c'est ça, du coup, c'est même pas... Enfin, il y a même pas quelque chose de l'ordre de la création, je trouve que c'est vraiment juste quelque chose de l'ordre de la justesse, mais de vraiment ça, en fait. Et qu'est-ce que c'est écouter? Qu'est-ce que c'est voir? Qu'est-ce que c'est parler, quoi? Et quand on se pose vraiment la question... Ouais, mais sincèrement, sans regard condescendant ou quoi que ce soit, ça aboutit à des choses, ouais, qui paraissent comme de la création, parce que c'est pas là dans le réel de tous les jours, dans le quotidien, mais en fait, je trouve qu'il y a juste quelque chose de l'ordre du témoignage, quoi. J'ai beaucoup l'impression, ouais, que c'est ça, que c'est un peu témoigner, et complètement ce que tu disais, tu vois, témoigner aussi de ce truc-là de « on ne naît pas ». De rien, on ne naît pas de nulle part non plus, quoi. Et peu importe nos existences, enfin, il y a forcément ça, des personnes qui nous ont précédés, et ouais, que ce soit des généalogies réelles ou des généalogies imaginaires. Et les généalogies imaginaires peuvent être beaucoup plus réelles que celles qui sont réelles aussi, quoi. Et de le voir en ce sens-là, de, ok, toutes les choses que j'hérite, pas du tout comme un poids, mais vraiment de « je me place dans la continuité ». Enfin, moi, j'ai beaucoup l'image du fleuve aussi, donc c'est juste ça, en fait. Donc, d'où là, le pas avoir un poids qui se laisse abattre, mais si on est juste une goutte d'eau dans ce cours d'eau, en fait, on a juste à se laisser porter aussi, en quelque sorte. Et ça veut dire aussi que oui, il y a quelque chose où nous, on est les ancêtres de demain aussi, quoi. Et donc, oui, quelle responsabilité à avoir là-dedans. Mais après, même chose, je trouve que sans le côté de contrainte ou de poids vraiment qui étouffe, je trouve que c'est juste de se dire... Mais c'est vraiment comme parler à l'enfant qu'on était, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai ? Enfin, moi, j'ai beaucoup la libération, ça me questionne beaucoup aussi en ce moment, de vraiment qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça nous coûte, en fait, de nous libérer, etc. Mais je trouve qu'il y a ça, par exemple, le fait de pouvoir se libérer pour ensuite pouvoir être un ancêtre, une ancêtre qui a permis ce mouvement-là, ou en tout cas montrer que c'était possible, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, quoi. Donc, c'est beaucoup ça, aller aussi réparer, aller guérir, pour que les personnes ensuite qui suivent puissent avoir ce mouvement-là qui est déjà initié pour elles. Ça me semble, ça me semble super important. Et c'est sûr que oui, du coup, ça se traduit dans mon geste d'écriture, et particulièrement là où les livres, c'est des objets chargés, quoi. Mmh. Et chargés aussi, ça, dans le sens de... Moi, je ne peux pas aller discuter tous les jours avec des inconnus. Mais mes livres me font à ma place. Et le font beaucoup mieux que moi, quoi. Parce qu'elles vont les chercher dans leur solitude, elles vont leur dire des choses que moi... Et les personnes vont leur dire des choses aussi que moi, et jamais elles ne m'auraient dit. Donc oui, ça c'est quelque chose où je sais tout le pouvoir que c'est un livre. Moi j'ai été sauvée par des livres, donc je sais.
Alors autant dans ce livre, je parlerai pas de cycle pour ce livre-là. J'ai pas vu... Alors je me souviens, quand j'ai reçu Douce Dibondo, il y avait ce principe où j'avais vraiment l'impression qu'on était en train de tourner. Et là, je me suis dit, mais non. Par contre, comme je le disais un peu plus tôt, entre tes œuvres, il y a quelque chose de plus cyclique. Dans le sens où, comme tu le disais, il y a des choses qui reviennent, etc. Et évidemment, ce titre, La plaie de l'aube, la récurrence du retour à l'aube, quelque chose alors qui est dans nos imaginaires communs ou dans nos réalités quand on a la chance d'être réveillé à l'aube, quelque chose d'extrêmement émouvant, vitalisant, enfin, quelque que ce soit parce qu'on ne s'est pas encore couché et qu'on s'est levé tôt, il y a quelque chose quand même d'une énergie qui nous dépasse. Et en refeuilletant ton roman, de ce fait, je suis tombée sur cet extrait que je vais donc lire. « J'aurais aimé te dire toutes les plaies, tous les creux de la chair, chaque souffle rongé et toutes les brèches qui ont guidé mes pleurs jusqu'à te voir naître. » Et en fait, je me suis dit, mais en fait, rien que ça, en fait, il y a beaucoup de choses qui expliquent cette suite-là, tu vois, ce rebond-là.
Oui, complètement.
Et c'est extrêmement émouvant, parce que quand on connaît l'histoire de Minuit à Minuit, donc ce lien de filiation, cette mère qui dit à quel point, en fait, elle a aimé cette fille qu'elle quitte, ben, il y a quelque chose, en fait, de, comme tu disais, de ne pas oublier l'amour et la tendresse et la douceur et, alors j'ai envie de dire, l'accolade, même si c'est un peu moins un terme mignon, on va dire, mais en tout cas, de cette impression de rassemblement. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de dimension tellement énorme. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on est sur des météorites, des choses extrêmement larges, mais parce que tu nous emmènes vers ces lieux-là. Mais pour autant, il ne faut pas oublier, en fait, qu'on est dans un lien de chaleur et de rassemblement, quoi.
Complètement, complètement. Ouais, mais ça me touche beaucoup que tu fasses le lien... Ouais, enfin, on ne l'avait pas fait autant, tu vois, de manière réelle et concrète. Et oui, ça me touche beaucoup, ça me touche beaucoup. En sachant d'autant que ça, enfin, il y a plein de personnes, après avoir lu le livre, qui m'ont dit oui... On aimerait beaucoup avoir un second roman où justement c'est la fille, soit c'est la fille qui parle, ou soit... Et moi, je me sentirais pas de le faire de manière aussi directe, mais oui, par contre, forcément, il y a une continuité dans tout ce que je cherche, et oui, enfin ça, j'ai vraiment l'impression d'écrire un grand livre, donc avec plein de formes différentes, et ça me permet d'explorer des choses différentes aussi. Mais oui, c'est sûr. Mais en fait, l'aube, pour moi, il y a vraiment les deux aspects. Qui sont, enfin ça, complètement ce que tu disais, tu vois, l'accolade et ce geste-là d'amour, et à chaque fois, ça, ben, c'est juste, enfin oui, le soleil qui revient aussi, c'est l'appel de la vie, quoi. Et ce côté-là où, enfin, j'ai été à la soirée de lancement de Qui est Miss, qui a sorti un premier roman qui est magnifique, qui s'appelle Et refleurir, Et où elle parlait de ça, en fait. Mais c'est des choses, forcément, qui préoccupent un certain nombre de personnes. Ce côté-là, de toute façon, le titre le révèle, qui est « Hérofleurir ». Et elle parlait de cette image-là, elle, qui l'avait particulièrement frappée, qui était le bois brûlé ou des plantes qui sont brûlées, et en fait, qui réussissent quand même ça, à renaître. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très particulier comme ça, enfin, dans la nature, mais dans les végétaux particulièrement, où en fait, la frontière mort-vie n'est pas stricte. Il y a vraiment, et par exemple dans les champignons, enfin moi j'ai une fascination pour les champignons en ce moment, mais dans ce côté-là, en fait dans les champignons, dans le réseau, il y a des choses qui meurent et il y a des choses qui renaissent en même temps. Et je pense que quand on regarde la vie, enfin du coup de manière, enfin ça c'est pareil, en enlevant cette lecture-là qu'on nous donne, en fait c'est pareil, les frontières de la vie et de la mort ne sont pas du tout aussi strictes que ce qu'on pourrait penser, quoi. Et je trouve que l'aube, c'est vraiment ce moment-là aussi, quoi, où en fait, toute la nuit, on est encore chargé de toute la nuit, et en même temps, le jour commence vraiment à poindre, et en même temps, c'est vraiment... Enfin oui, cet instant entre aussi, et même dans ce côté-là de... Enfin, quand on se lève à l'aube aussi, il y a encore très peu de personnes qui sont levées encore. Donc même dans ce côté-là de à quel point notre solitude occupe le monde aussi, et le côté aussi de ça, les rues sont encore vides. Enfin, il y a quelque chose de notre présence qui est très particulière, quoi. Les couleurs sont très particulières aussi. Et il y a quelque chose de très ténu, je trouve, de très faible, enfin, presque fragile, en fait, qui est très particulier, parce que pourtant, c'est quelque chose qui arrive à chaque fois. Mais à chaque fois, il y a un peu presque l'instant d'hésitation de « oui, est-ce que ça va arriver ? Est-ce que ça va pas arriver ?» quoi. Et c'est quelque chose que je trouve fabuleux en ce sens-là. Et aussi, oui, dans ce côté-là, de vraiment... Enfin, ça, c'est... Je crois que c'est Hume, quoi, qui est un philosophe, mais qui dit ça, qui dit le truc par rapport à l'habitude. En fait, où on va penser des choses comme vraies, nous, les êtres humains, du coup, avec l'habitude, mais en fait, qu'il n'est pas dit que le soleil va se lever chaque matin. Il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit, quoi. Donc, à chaque fois, il y a quelque chose de l'ordre du miracle qui se rejoue à chaque fois, quoi. Et je crois beaucoup à ça, pour le coup. Donc, d'un côté, il y a ça. Et de l'autre côté, en fait, et c'est quelque chose qu'on voit ben, là actuellement, par exemple, avec les Palestiniens et les Palestiniennes, il y a quelque chose de déchirant dans l'aube quand on traverse une période de souffrance, quoi. Il y a ce côté de « il faut encore recommencer ». On dormait, il faut encore recommencer, quoi. Et j'ai toujours ces deux choses-là qui sont toujours présentes dans mon rapport, moi, à ce moment-là et à qu'est-ce qui signifie. Et je pense que c'est le rapport à la vie aussi généralement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de magnifique, il y a quelque chose de miraculeux, il y a quelque chose d'immense qui n'arrête pas de s'étendre. Et en même temps, il y a quelque chose qui peut être tellement dur, quoi. Et dans cette société-là, ou plus généralement, à chaque fois que c'est porté, ces choses-là, hétéropatriarcales, coloniales, capitalistes, toute la violence, toute cette nécropolitique, ça fait que, comme notre droit à la vie est sans cesse remis en question, ça veut dire que chaque matin... Et aussi quelque chose où il faut se lever de nouveau et lutter pour aller le réclamer sans être sûr qu'on va pouvoir nous le donner, quoi. Et c'est d'où le titre qui est un peu particulier, quoi. Mais c'est, ouais, toujours ce côté-là de... Enfin, à la fois toute la plaie et toute la souffrance, et à la fois la vie et tout l'amour qu'il y a dedans aussi. Et les deux, on ne peut pas séparer l'un de l'autre pour moi non plus, et on le voit tout le temps, enfin ça même en Palestine, enfin je trouve que c'est aussi un bon exemple de ça, quoi. Il y a autant ce côté-là de l'amour et de la transmission qui reste, etc., que le côté de toute la souffrance qui est vécue jour après jour.
Est-ce que pour terminer tu accepterais de nous lire un
passage ? Oui, bien sûr. Qui puis-je ? Il faut bien commencer. Commencer quoi ? La seule chose au monde qu'il vaille la peine de commencer. La fin du monde, parbleu. Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal. 23h13, première ligne de fuite. La main respire, gravat de lune. Des minéraux corail sous la langue, nos rêves s'échappent de leurs filets pour rejoindre la mer. Qu'y a-t-il sous la corne du pied ? Les érinies descendues pour mettre feu à la langue. Sous le cri de mon ventre, tanit prenant racine de mes entrailles,
pour étrangler les lianes du couchant. Quel fin mordre sur la pupille, quel chant fendu sur nos peaux de fièvre, que l'obsidienne s'arrache à la paupière, rugit sa saccade de larmes déteint. J'ai la chute de l'horizon effilochée sur la dentelle des ombres. J'ai cousu la ligne du temps, à point ardent et marteau ferreux de poussière, les crocs en plaques sur le front, l'odeur barbare, sifflement âcre qui prend le son et ramène aux archives de la poussière, le pas cendré à courir sur des haches de crépuscule, l'or vertèbre comme sillon d'aurores enlacées aux nœuds des mains, le soleil se fond entre les billes et les jambes des sirènes, roulis de rires étouffés sur l'ourlet de la faille. Je porte le regard rougi des guérillas, détresse fleuve de sang, frappée aux parois de la tendresse, la diagonale des gouffres et du soleil délié. La mort bat son plein et sur l'échine sa cour. Fièvre, 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 fièvre. Le front assoiffé par murmures veineux, la douceur gâtée par des chants de vertèbres à sucre, la pupille striée par l'écho du fouet, fièvre, le poing se fraye à route osseuse et incendiaire, sa caillasse dans les souterrains fauchés de la poitrine. J'entends des collines de fin de monde, Habibi, j'entends les larmes du soleil. Et derrière le ressac des montagnes, nos humanités jetées sur le béton, leurs carcasses rocheuses, et ces printemps qui ont noirci comme les roses des sables, les pétales pointant vers d'autres mondes, vers l'antimatière.
Merci beaucoup, Sarah.
Merci à toi.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Sarah Mishkin à l'occasion de la publication de son recueil La Plaie de l'Aube aux éditions Blast. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. La Franchie Podcast.